Bonjour et bienvenue sur le podcast Inspire Expire. Je suis Gabrielle, professeure de yoga et je t'accueille ici pour parler yoga, mais aussi bien-être et santé mentale au quotidien. Nous sommes fin octobre, plus précisément fin octobre 2023, et c'est donc bientôt Halloween. C'est pourquoi j'avais envie de faire un épisode d'Inspire Expire dédié aux peurs en yoga. Et j'avais envie d'innover un peu dans la façon de créer cet épisode parce que je n'avais pas envie de me baser sur les peurs en général, mais de me concentrer sur les peurs qui vous remuent dans votre pratique de yoga. C'est pourquoi je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient vos peurs actuelles dans le yoga. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de me faire leur partage. Je les ai bien reçues et j'ai pu ainsi déterminer un beau menu de trois grandes peurs que nous allons explorer aujourd'hui. J'aimerais souligner dès à présent que c'est ok d'avoir ces peurs. Même si aujourd'hui je vous propose des moyens de les apaiser ou de les dépasser, ça ne veut pas dire que la peur que vous aviez était ridicule. Vous aviez peur et c'était ok. Et si j'ai pu vous apporter de l'apaisement par rapport à ça, eh bien j'en serais très heureuse. Allez, c'est parti pour plonger dans ces peurs. La première des peurs en yoga, c'est la peur de mal faire. Que ce soit mal faire les postures, la respiration ou même se faire mal. Dans un premier temps, j'aimerais que vous preniez le temps de vous poser et de vous demander, voire d'écrire, qu'est-ce que ça vous évoque, cette peur de mal faire en yoga? Vous pouvez mettre le podcast en pause pour prendre le temps de faire ça. La peur de mal faire en yoga, elle est totalement valide, d'autant plus si vous débutez le yoga. Cette peur, elle montre simplement une envie de bien faire. Une envie de bien faire pour soi, peut-être aussi une envie de bien paraître aux yeux des autres ou aux yeux de votre professeur. C'est ok, même si avec la pratique du yoga, ce qu'on cherche justement, c'est à se détacher de cela. Si vous avez peur de mal faire les postures, rappelez-vous qu'en yoga, on cherche avant tout à vous donner des indications et non pas des impositions ni une esthétique. Le but avant tout, c'est de vous permettre de ressentir dans les postures, de recentrer votre mental. Si vous êtes dans un cours en présentiel, et si vous l'acceptez, vous pouvez avoir le prof qui peut venir vous aider, vous ajuster pour peut-être vous aider à vraiment être dans la meilleure position optimale pour votre corps. Sachez que les postures peuvent varier beaucoup d'un corps à l'autre en fonction de leur morphologie. Et vous pouvez aussi beaucoup vous ajuster par vous-même en ressentant ce qui se passe dans le corps. C'est quelque chose qu'on essaie de développer en yoga, ce ressenti intérieur qui vous permet d'ajuster. Et au final, c'est peut-être plus important que vous vous ajustiez en fonction de vos ressentis que en fonction d'une esthétique qu'on voudrait calquer sur l'extérieur du corps. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, étant donné le caractère visuel qui est donné au yoga et notamment aux postures de yoga actuellement, il n'y a pas forcément de postures standards. Encore une fois, peuvent être aussi variées que les corps sont variés. Justement, si vous avez peur des blessures, c'est totalement ok. Il est possible de se blesser en yoga à partir du moment où on a une pratique physique. Ça ne veut pas dire que vous risquez de vous blesser à tous les coups. Acceptez cette peur, mais rappelez-vous que vous avez du pouvoir sur votre corps, que vous en êtes la personne responsable, et donc la personne qui peut décider si vous restez dans une posture, si vous allez dans une posture. Allez à votre rythme et prenez pleinement conscience des signaux physiques et mentaux, de ce que vous disent votre corps, votre mental, et de voir comment vous vous ajustez par rapport à ça. Cette peur de mal faire, les postures en particulier, je vous invite à la fois à l'accepter et aussi à lui proposer de partir, en venant placer d'autres affirmations mentales qui peuvent être « je fais du mieux que je peux ». J'écoute pleinement mon corps. J'apprends à me faire confiance. Autre peur, si vous avez peur de mal respirer. Une question. Est-ce que mal respirer, c'est possible? La respiration est une fonction autonome du corps qui a pour but d'inspirer en fait l'air et de faire en sorte ensuite que l'oxygène vienne dans les poumons pour qu'ensuite il puisse passer dans le sang, qui puisse nourrir toutes nos cellules. Et en même temps, il y a un autre échange puisque le CO2 qui est issu des différentes réactions chimiques dans notre corps va être expulsé avec l'expiration. Et ce fonctionnement nous permet tout simplement de vivre. Donc si vous êtes en vie, c'est qu'a priori votre respiration est bonne. Vous respirez bien. Je souligne ceci parce que si on se dit « je respire mal », on se dit « je dois absolument trouver quelqu'un qui m'apprenne à respirer correctement ». Et ça peut mener à donner du pouvoir à quelqu'un d'autre sur ce qui est en fait une fonction autonome du corps. 99% du temps, votre respiration se fait toute seule et se charge très bien de son rôle de vous maintenir pleinement en vie. Le yoga n'est pas vraiment là pour nous dire comment respirer. Pour moi, il propose plutôt différentes techniques pour explorer le souffle, pour en prendre conscience, pour l'observer, pour connaître ses effets sur le mental et les émotions, et pour nous apprendre à développer notre pouvoir sur notre respiration, à force d'exploration, d'expérimentation, d'observation. Avec des cours de yoga, on peut apprendre des choses sur notre respiration, comment elle est à un moment T, comment elle est en fonction de comment je me sens mentalement, comment elle est quand par rapport à mon ressenti physique également. Les cours de yoga peuvent aussi nous aider à maîtriser et à contrôler cette respiration dans le but de l'étendre ou de la raccourcir, de la changer. Et cela peut aussi nous apporter un pouvoir sur notre respiration et découvrir qu'en fait, en contrôlant notre souffle, on peut contrôler notre mental, on peut même contrôler certaines choses sur notre corps. Il y a des respirations qui nous aident à nous réchauffer, d'autres qui nous aident à nous refroidir. Il y a des respirations qui nous apaisent et d'autres qui nous dynamisent. Donc ici, j'ai exploré ces peurs de mal faire les postures, peur de mal faire la respiration, en vous rappelant que vous avez pleinement maîtrise de votre corps et que vous pouvez vous faire confiance et que dans la pratique du yoga, vous allez petit à petit apprendre à vous faire de plus en plus confiance, à être dans cette exploration physique, sensorielle, mentale, respiratoire, émotionnelle et de pouvoir en tirer une grande connaissance de vous-même qui vous aide à avoir pleinement confiance et à pouvoir en fait reconnaître les moments où vous faites bien, entre guillemets, c'est-à-dire bien pour vous-même, bien pour recentrer votre mental. Ceci étant dit, je vais vous donner aussi le secret pour vous aider à apaiser vos peurs qui sont reliées à la pratique du yoga. Vous avez une ressource inestimable si vous prenez des cours de yoga. C'est votre professeur. Ce secret, c'est de vous ouvrir à votre professeur, de parler et de poser les questions que vous avez. En tant que professeur, je peux vous dire que nous sommes là pour ça. Nous ne rêvons que de pouvoir répondre à vos questions et de pouvoir vous accompagner au mieux. Donc si vous avez peur de mal faire dans votre pratique, notez de quoi avez-vous peur exactement. Est-ce que c'est une posture en particulier? Est-ce que c'est un placement spécifique d'une partie du corps? Est-ce que c'est en rapport avec la respiration, soit en général, soit une pratique respiratoire particulière qui vous pose question? Est-ce que c'est des questions sur la méditation, etc. Et n'hésitez pas à venir poser la question. En ayant ce mélange de confiance en vous, mais aussi de poser des questions, vous allez pouvoir vraiment être pleinement actrice de votre parcours de yoga. Et c'est vraiment un plaisir pour chaque prof de voir que nos élèves peuvent être pleinement dans ce plaisir d'avoir confiance dans leur corps, dans leur respiration et d'apprendre de plus en plus à chaque séance. Et ça, c'est quelque chose que je propose dans tous mes cours en ligne, dans lesquels je prends toujours un temps en fin de séance pour récolter les questions, que ce soit sur une posture, sur une respiration, parfois sur quelque chose que j'ai dit, etc. et qui permettent aux élèves de développer leur pratique de yoga. Donc si tu veux explorer ça ensemble, on se retrouve dans les notes du podcast où tu trouveras le lien pour t'inscrire en cours. La deuxième peur qui est beaucoup revenue dans vos partages sur Instagram, c'était la peur des postures que je vais appeler impressionnantes. Les postures impressionnantes, on va dire, c'est les postures waouh, c'est les postures où on les regarde, on fait oh, « on peut faire ça avec son corps !» Que ce soit en fonction de la contorsion, de l'équilibre, notamment l'équilibre sur les bras, qui est montré. Pareil ici, prenez le temps de mettre le podcast en pause et de vous dire de quelle posture avez-vous peur. Quelles sont les postures qui vous impressionnent? Ce que je remarque, c'est que souvent, On n'a pas peur des postures qui sont impressionnantes, mais qui sont avant tout celles qui demandent de la souplesse ou qui parfois sont réservées aux gens qui ont une certaine morphologie. Je pense à certaines postures comme Raja Kapotasana, qui est le pigeon royal, qui demande vraiment une certaine souplesse du dos, mais qui est posé au sol, qui n'est pas en équilibre. Ou encore Natarajasana, qui elle est une posture en équilibre sur un pied, mais qui pareil demande beaucoup de souplesse dans le dos et la jambe. Généralement, en fait, cette peur des postures, elle est basée sur les inversions. Enfin non, pas toutes les inversions. Laissez-moi vous poser une question sur votre pratique. Est-ce que dans votre pratique, vous retrouvez Uttanasana, la pince debout, où vous êtes en posture debout et vous vous repliez vers l'avant? Est-ce que vous pratiquez Adho Mukha Svanasana, le fameux chien tête en bas? Est-ce que parfois vous êtes dans Setu Bandha Sarvangasana, le demi-pont, qui prend appui sur les épaules, sur les pieds et qui fait monter le bassin? Est-ce que parfois vous pratiquez Sarvangasana, la posture de la chandelle? On appuie sur les épaules, le bassin soutenu par les mains et les jambes le plus à la verticale possible. Vous pratiquez une de ces postures? Super, vous pratiquez une inversion. Une inversion est souvent définie comme le fait d'avoir le cœur au-dessus de la tête. Et c'est le cas dans toutes les postures que je viens de vous énoncer. Pourtant, elles ne font sûrement pas partie des postures qui vous impressionnent, des postures qui peuvent vous faire peur. Parce que souvent, quand on pense à inversion, on pense à inversion en équilibre. Et on oublie que les inversions existent dans notre pratique de façon beaucoup plus accessible. Donc un point très important, si votre peur est basée sur le fait que vous avez l'impression de vous priver de toute une famille de postures dans votre pratique qui pourraient vous être bénéfiques, sachez que ce n'est pas le cas si vous pouvez pratiquer une des postures que je vous ai énoncées. Toutes les inversions ne sont pas forcément en équilibre, elles ne sont pas forcément impressionnantes. Ces inversions impressionnantes, c'est généralement donc les inversions en équilibre ou encore les équilibres sur les bras. Donc vous avez généralement Shirshasana, la posture sur la tête, vous avez Adho Mukha Vrikshasana qui est le poirier. Vous pouvez aussi avoir Bakasana qui est la posture du corbeau, qui n'est généralement pas classée dans les inversions mais a quand même le cœur légèrement au-dessus de la tête. Quand j'ai reçu les réponses à ma question sur vos peurs dans le yoga sur les inversions, il y avait vraiment cette idée de « j'ai peur des inversions, comment faire ?» J'aimerais avant poser une question. Concernant les inversions, au-delà de la peur, est-ce que vous avez envie de les pratiquer? Est-ce que, quand vous les voyez, ça vous donne envie de le faire? Parce que je pense que c'est ça qui est très important, c'est que vous n'avez aucune obligation à faire ces postures. Je suis professeure de yoga et je vous dis que toutes les postures de yoga, toutes, sans exception, sont optionnelles. Il y a beaucoup de choses en vérité en yoga qui sont optionnelles dans le sens où c'est une pratique extrêmement riche pour apporter plein de choses à des gens différents qui ont des besoins et des envies et des attentes différentes. Donc ces inversions sont des options comme les autres, vous n'êtes pas obligé de les pratiquer. Donc à partir du moment où il y a ça, est-ce que ça vous soulage de savoir que vous n'êtes pas obligé et que vous pouvez les laisser tomber et vous concentrer sur tout le reste des postures mais aussi tout le reste des autres pratiques que vous propose le yoga? Je n'insisterai jamais assez sur le fait que le yoga n'est pas une pratique physique, mais une pratique beaucoup plus large que cela. Ou est-ce que vous dites « Ah mais si, j'en ai envie, mais j'ai peur !» Et c'est ok d'avoir envie, mais d'avoir peur. On a peur parce que ce ne sont pas des postures, j'ai envie de dire, naturelles. On ne marche pas sur les mains tous les jours, généralement c'est nos pieds que nous utilisons quand c'est possible. Et également il y a la notion que, ne marchant pas sur nos mains, nos bras ne sont pas habitués à porter le poids de nos corps. Et c'est leur demander un gros effort que de faire des inversions en équilibre. Si vous avez envie de faire des inversions en équilibre ou des postures d'équilibre sur les mains et les bras, et que vous avez quand même peur, c'est ok. Et vous avez plein d'options pour explorer ça. Je vous invite à rechercher des ateliers spécifiques sur les inversions autour de chez vous avec des professeurs. Vous pouvez aussi également, si vous avez des questions, notamment sur le plan anatomique, poser des questions à votre kiné, votre ostéo, notamment si jamais vous avez des épaules sensibles, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui est accessible pour vous, qu'est-ce qui ne va pas poser trop de stress sur les épaules. Il y a aussi des outils qui peuvent vous aider à entrer dans les inversions et peuvent vous aider donc à les travailler et à progressivement avancer malgré la peur et explorer la posture. Je pense notamment aux sièges d'inversion qui sont donc des petits sièges dans lesquels en fait on place la tête et les épaules reposent sur une partie rembourrée et ça permet vraiment de rentrer dans une inversion pour être soutenu et à la fois d'être dans une inversion mais en se sentant et soutenu et en plus grande sécurité. Votre besoin de sécurité, il est totalement valide et votre envie peut-être de faire des inversions en équilibre est totalement valide aussi et les deux peuvent se rencontrer. Vous n'êtes pas obligé de, au contraire, de vous sentir en insécurité. À partir du moment où vous vous sentez en insécurité, vous aurez beaucoup plus de mal à explorer les inversions en équilibre, sur les bras, sur les mains ou toute autre posture impressionnante, que si vous pouvez, vous-même, mais aussi avec votre professeur, encore une fois avec des ateliers, des ressources, des gens, etc., construire petit à petit cette confiance en vous. C'est vraiment l'idée de se montrer à vous, à soi-même qu'on est capable, que ça fonctionne, que progressivement on ressent les choses, le passage du poids des pieds vers les mains par exemple, le bassin qui bascule, etc. Et que progressivement on maîtrise petit à petit l'avancée et l'exploration de cette posture. Donc, un point sur les inversions en équilibre, ce sont des postures optionnelles et l'important c'est d'avoir envie. Et ensuite, si vous en avez envie, vous pourrez choisir ou non de dépasser la peur. Et enfin, dernière peur, c'est la peur de ne pas être légitime à être professeur. Donc si vous avez envie d'être professeur de yoga, je vous invite à écrire toutes les raisons qui font que vous ne vous sentez pas légitime à vous lancer dans une formation. Mettez le podcast en pause et on se rejoint juste après. Dans un premier temps, je vous invite encore une fois à accepter cette peur qui est valide et ensuite à imaginer cette peur sous la forme d'une feuille de papier que vous mettez en boule et que vous jetez au feu. Et particulièrement si cette peur est liée au fait de ne pas pouvoir faire certaines postures. Je m'en tiens toujours à la ligne que je vous ai donnée en introduction de l'épisode. Votre peur est valide. Mais en fait, cette peur-là, cette peur de ne pas pouvoir être prof parce que on ne fait pas certaines postures, elle ne vient pas de vous-même. Elle vient de l'extérieur. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas légitime. Vous êtes légitime à la ressentir, mais je prends la peur et je vous dis « ça, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à faire en vous, on met de côté, on la jette ». Pourquoi ? Parce que le fait de se dire « je peux pas être professeur » parce que, et généralement c'est ça, c'est « je n'arrive pas à faire des inversions », on en revient au point précédent, ou « je n'arrive pas à être en posture du lotus qui est THE posture de méditation », eh bien ça, c'est une projection. Une projection qui est nourrie par la façon dont la société actuelle voit le yoga. Et dans la façon dont cette société nous renvoie ce que c'est d'être une professeure de yoga. Cette peur liée aux postures, elle est sociétale, elle vient de l'extérieur, elle vient de la pression des images, de ces postures exécutées parfaitement, entre guillemets, des postures impressionnantes, des inversions, etc. Référence au point précédent, à la peur précédente qu'on a explorée ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, toutes les postures sont optionnelles. Donc ce n'est pas parce que vous ne faites pas une partie des postures que vous n'êtes pas légitime à pratiquer ou même à enseigner le yoga. Parce que le yoga n'est pas une pratique physique. C'est une pratique multifacette, multimillénaire, qui a une dimension physique, qui s'exprime notamment par la pratique des asanas, des postures. Cette dimension est récente, et cette dimension, elle permet à des gens qui ont du mal à se poser mentalement directement en méditation, de retrouver leur corps, de rentrer dans le corps qui est toujours dans l'instant présent, et de permettre de poser le mental. Et parfois, c'est la seule option pour ces personnes pour poser le mental. Mais cette dimension physique du yoga, elle est optionnelle. Elle est optionnelle en tout, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être professeur de yoga sans jamais enseigner les asanas. Et elle est optionnelle en partie, c'est-à-dire vous pouvez aussi ne pas être à l'aise avec certaines postures et choisir de les mettre de côté, que ce soit de manière temporaire ou définitive. Le yoga, ce n'est pas les postures d'asana. Vous enlevez les asanas au yoga, ça reste le yoga. Donc si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas pratiquer cette dimension physique ou une partie de cette dimension physique, vous n'en êtes pas moins légitime à pratiquer ou à enseigner. Votre légitimité de prof de yoga, pour moi, elle ne pourra jamais vraiment porter sur le yoga en lui-même. Très souvent, on se focalise sur qu'est-ce que je sais du yoga pour pouvoir se dire est-ce que je suis légitime à l'enseigner. Or, en fait, d'une certaine manière, si vous vous basez sur ce que vous connaissez du yoga, vous ne serez jamais légitime à l'enseigner parce qu'il y a tellement de choses à explorer, en fait. C'est un apprentissage de toute une vie. Et donc, vous ne serez jamais enseignant, enseignante de yoga si vous décidez qu'il faut tout apprendre avant d'être professeur de yoga. Donc, votre légitimité de professeur de yoga, elle ne porte pas tant sur le yoga que sur l'enseignement. Parce que ce qui différencie une personne qui pratique le yoga et une personne qui enseigne le yoga, c'est pas le yoga, c'est pas ses connaissances sur le yoga, c'est l'envie de transmettre. Et cette envie, si elle n'est pas là, si ce n'est pas votre moteur premier pour commencer une formation d'enseignement du yoga, là, il peut y avoir un problème éventuellement de légitimité. Parce qu'un professeur de yoga, avant d'être une personne qui connaît le yoga, qui pratique le yoga, qui le connaît en profondeur, qui le pratique en profondeur, c'est avant tout une personne qui veut enseigner, qui veut transmettre. On en revient à cette idée d'envie, de désir, de volonté qu'on a vue dans la peur liée aux postures impressionnantes. Sachez que s'il fallait pratiquer et enseigner les inversions en équilibre pour être professeur de yoga, eh bien je ne serais pas professeur de yoga. Ce sont des pratiques qui me font peur, donc je comprends tout à fait cette peur de pratiquer les inversions en équilibre. Ce sont des pratiques qui, pour des raisons mécaniques, ne me sont pas forcément accessibles. Du coup, c'est aussi des pratiques qui me font pas envie. Voilà, il y a un mélange de à la fois de peur et de non-envie et de j'ai tellement à explorer avec les autres postures, les respirations et tous les autres aspects du yoga que je vous ai énoncés que ce n'est pas là où j'ai envie de porter ni mon attention ni mes efforts pour apprendre à mieux transmettre. Ça ne fait pas de moi une moins bonne professeure de yoga que quelqu'un qui pratique et enseigne les inversions. C'est ok, et je pense que nous avons un énorme besoin d'avoir des professeurs avec des enseignements variés pour pouvoir conserver cette richesse du yoga et pour faire en sorte qu'elle puisse répondre aux besoins de personnes bien différentes qui pour certaines ont besoin de postures exigeantes physiquement pour couper le mental et qui pour d'autres se plongent avec délectation dans la respiration qui est la pratique qui les aide à pouvoir se recentrer. Donc c'est ok, et je dirais même c'est très sain de se poser des questions sur sa légitimité à être professeur, sur son envie de transmettre. Là où je peux vous dire d'office avec une certitude et une grande confiance que vous avez une peur qui peut être poussée au loin et disparaître très loin, c'est si cette peur est liée au fait que vous ne pratiquez pas une certaine partie des postures de yoga. Je vous assure que vous n'avez pas besoin de tout pratiquer pour être légitime à enseigner si la transmission est au cœur de votre envie. Voilà pour cet épisode spécial Halloween autour de trois grandes peurs dans le yoga, trois grandes peurs que vous m'avez partagées. Merci de vos partages qui m'ont permis d'explorer avec vous ces peurs et de voir comment on peut les apaiser, les dépasser et parfois trouver aussi des façons de faire qui sont douces. Je pense notamment aux postures d'inversion en équilibre pour lesquelles vous pouvez tout à fait y aller progressivement avec des outils, avec du suivi, avec un professeur, avec des ateliers, etc. Et si vous souhaitez un cours de yoga avec cette approche nuancée et aussi une approche du yoga multifacette qui explore les postures aussi bien que la respiration, aussi bien que les mudras et la méditation, je vous invite à cliquer dans les show notes du podcast et à retrouver le lien vers les cours en ligne et les témoignages des élèves si vous avez besoin de savoir comment cela se passe en détail dans une séance de yoga. Pour me contacter, vous avez dans les notes de l'épisode mon mail pinchayoga.gabi@gmail.com. Merci beaucoup pour tous vos partages autour du podcast. Il se développe grâce à vous. Merci pour votre bouche à oreille, pour les commentaires que vous laissez, pour vos partages sur les réseaux sociaux et surtout, surtout pour vos écoutes que je vois grandir. Et ça me fait très chaud au cœur de savoir tout ce que le podcast peut vous apporter. On se retrouve prochainement pour un autre épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et prenez bien soin du monde. À bientôt!